Les deux orphelines, première partie, chapitre 19. La surprise et le contentement de Prel furent tels qu'oubliant sa dignité, il saisit vivement la main du valet en disant à celui-ci « Que ne te dois-je pas, la fleur ?» Pour toute réponse, le drôle exécuta la pantomime qui lui était familière et tendit les deux mains. « C'est juste, » fit de Prel, « voici la récompense promise. » Et, prenant sa bourse dans son gousset, il la lança au valet de chambre. Avec une vivacité de singe, la fleur avait fait disparaître la bourse dans la poche de son haut de chausse. Puis avec un sourire. « Notre jolie voyageuse est là. »« Là, dis-tu ? » ?»« Alors hâte-toi, je vais l'annoncer. Amène-la dans un instant. » Dans son impatience, cet écervelé ne s'occupait même pas de savoir ce qu'on avait pu faire à la jeune fille pour la décider à se séparer de sa compagne et quels moyens on avait employés pour lui amener sa victime. Maintenant qu'elle était là, il ne songeait qu'à se préparer un triomphe lorsqu'il présenterait sa nouvelle conquête à la société en délire qui se livrait, dans ce pavillon du bel air, une véritable saturnale. Aussi, dans son empressement à aller s'occuper des derniers détails de la mise en scène indispensable pour cette présentation, répéta-t-il à la fleur. « Hâte-toi de nous amener la charmante enfant !»«
L'amener ? Je le voudrais bien, mais c'est impossible !»«
Impossible ! »
« Mais oui, monsieur le marquis, c'est impossible. À moins de la porter, elle dort. »«
Comment ? Elle dort ?»«
Monsieur le marquis peut s'en assurer. »
Et s'effaçant, la fleur démasqua l'entrée du bosquet. De Prel, marchant sur le bout des pieds, s'approcha. Henriette avait été placée sur un banc de jardin et sa tête reposée sur le dossier. Par précaution, le valet avait glissé un coussin de soie sous le cou de la dormeuse.
« Endormie, » murmura le marquis. Qu'elle est adorable ainsi.
Monsieur le marquis, dit la fleur qui voulait faire valoir ses services, il m'a fallu recourir aux grands moyens.
Qu'importe, puisque la voici en mon pouvoir.
Ah, ça n'a pas été sans peine, insista le rusé domestique. Elle se méfiait de moi, refusait de me suivre, et allait, Dieu me pardonne, appeler au secours. Mais un mouchoir sur la bouche et quelques gouttes du liquide contenu dans ce flacon.
C'est bien, interrompit de Prel.
Le principal est fait. Monsieur le marquis veut sans doute attendre que la demoiselle se réveille.
Que dis-tu là ?
Oh, elle ne tardera plus maintenant à ouvrir les yeux.
Tu te moques de moi, drôle !
Et entraînant la fleur à quelques pas. Tu vas te faire aider par deux laquais, ou plutôt par quatre de ces servantes mauresques, et tu porteras la belle tout endormie sur la pelouse. L'entrée sera plus originale. Nous pourrons ainsi assister tous à son réveil. Ce sera charmant. Se tournant une dernière fois vers son valet, il lui fit signe d'avoir à lui obéir sur le champ. La fleur s'inclina, et tandis que le marquis retournait auprès de ses invités, la fleur appela quatre des servantes pour l'aider à transporter la dormeuse au milieu de la grande pelouse de gazon. Voyant arriver l'amphitryon, dont l'absence venait seulement d'être remarquée, les invités se portèrent au-devant de lui. D'un geste, de Prel tint tout le monde à distance, et, élevant la voix, il s'écria « Mes amis, je vous avais promis une surprise.
Oui, oui.
Tu te souviens, Florette, que je t'avais annoncé une étoile de Normandie, s'écria la danseuse du haut de la balançoire où elle s'était hissée de nouveau.
Avec son bonnet et ses sabots, ajouta Julie.
Eh bien, reprit le marquis en indiquant le groupe formé par la fleur et les servantes portant Henriette endormie, cette étoile, cette perle, regardez, la voilà. À ces mots, un mouvement de curiosité se produisit chez tous les assistants. Florette sauta de sa balançoire. Les joueurs interrompirent leur partie et jetèrent les cartes. Roger, seul, mollement étendu sur son fauteuil, continuait à se verser à boire pendant que tout le monde avait les yeux tournés vers le bosquet d'où l'on venait de voir sortir Henriette, portée par les quatre jeunes servantes, qui la déposèrent avec précaution, en ayant soin de lui glisser des coussins sous la tête et sous les pieds.
« C'est la nouvelle ?»
s'exclama Florette en s'avançant furieuse vers la jeune fille endormie.
« Notre rivale, mesdames !» surenchérit Julie en toisant le marquis d'un petit air mécontent.
Et Roger, sans bouger de sa place, se disait « Encore quelques jeunes filles à enlever ou acheter !» Toutes les dames s'étaient rapprochées du banc où reposait la nouvelle.
« Eh, mais elle est donc évanouie ? demandèrent en même temps Julie et Florette. « Simplement endormie, mes chers, » ricana de Presles. « Elle s'évanouira plus tard. » Toujours sceptique, le chevalier de Vaudrey riait sous cap. Roger aurait parié qu'elle avait seulement les yeux à demi fermés et qu'elle riait tout bas de la peine qu'on avait prise. Il y avait cercle maintenant autour du banc, et le marquis demandait ce que l'on pensait de sa conquête. Les avis étaient partagés, surtout parmi les femmes. Les unes lui trouvaient une figure un peu commune. Selon les autres, elle avait les pieds gros, les bras bêtes et des mains de gardeuse de moutons. En entendant ces appréciations diverses, Roger déclarait à de Mailly que la demoiselle avait une figure adorable, l'air distingué, des pieds et des mains de duchesse. « Mais tu ne l'as seulement pas regardée, » objectait le jeune homme en riant. « Non, mais j'ai entendu ce qu'en disaient ces dames. » Le fait est qu'en regardant la jeune inconnue, le chevalier de Vaudrey n'eût certainement pas changé un mot à l'appréciation favorable qu'il venait d'émettre. Henriette endormie avait une beauté angélique. Les émotions violentes qu'elle avait subies avaient répandu sur son visage un voile de mélancolie. Ses paupières, un peu entr'ouvertes, laissaient voir l'œil mourant sous la frange soyeuse des cils. Les lèvres n'avaient pas perdu leur vif incarnat, malgré les souffrances morales qu'avait endurées la pauvre fille. Il y avait enfin dans l'ensemble de cette physionomie un air de douceur et de placidité de l'âme qui attirait la sympathie. Peut-être en apercevant cette jeune fille qu'un hasard mettait en sa présence, le sceptique Roger se serait-il senti entraîné vers elle par un de ces irrésistibles élans qu'éprouvent les cœurs que la gangrène morale n'a pas encore complètement envahi. Mais le chevalier, sans s'occuper de ce qui se passait à quelques pas de lui, continuait à boire en causant avec son ami de Mailly. Disons-le, Roger commençait à se lasser de rester simple spectateur de cette orgie, et il voulait, grâce au champagne, se mettre à l'unisson de cette société de fous. Puis, comme s'il eût subitement changé de résolution, il fit un mouvement pour se lever et partir. « Où vas-tu donc ?» lui demanda de Mailly. « Je m'en vais, » répondit froidement Roger. « Eh bien, mon cher, ce n'est pas le moment, » répondit le jeune marquis. « Car, si j'en juge par tout le mouvement qui se fait là-bas, ta jolie dormeuse doit être sur le point de se réveiller. » En effet, Florette venait de dire « Attention, elle s'agite, elle porte la main à sa tête, elle va se réveiller. » « Si on lui faisait respirer ce flacon ?» demanda Julie en présentant l'objet. « C'est inutile, ma chère, la voici qui entr'ouvre les yeux. » Le chevalier s'était cependant décidé à prendre sa part du spectacle que de Mailly déclarait devoir être fort piquant. Il se trouva auprès du marquis de Presles, qui ne se sentait pas de joie à l'idée de la surprise qu'allait dans quelques instants éprouver la provinciale d'Évreux. « Que va-t-elle dire » murmura-t-il à l'oreille de Roger, « en se trouvant au milieu de nous ?» Le chevalier éclata d'un rire forcé, le rire des fanfarons de vice. « Ce qu'elle dira, mon cher de Presles, ah, nous la connaissons par cœur, cette sempiternelle histoire des filles enlevées. Que l'instant du réveil arrive, et celle-ci va chanter le refrain habituel. « Où suis-je? Pourquoi m'a-t-on conduite ici? Grand Dieu, ma mère, ma mère !» Puis viendra ce profond et vertueux désespoir qui commence avec des torrents de larmes et qui se noie ensuite dans des flots de champagne. « Bien pensé et bien dit !» fit de Presles. Florette et Julie approuvaient du regard. « Bon, » murmura cette dernière, « nous allons bien voir si le chevalier est bon prophète. Écartons-nous un peu pour ne pas l'effrayer, » recommanda Florette en étendant les bras pour élargir le cercle autour du banc. Il y eut un moment de silence. Malgré soi, on s'intéressait à cette jeune fille que personne ne connaissait. Pendant quelques secondes, tous ces viveurs et ces filles demeurèrent diversement impressionnés, attendant ce qui allait se passer. Le marquis, un peu en avant du groupe, triomphait assurément, car un joyeux sourire errait sur ses lèvres. C'était son véritable coup de maître que cet enlèvement. Il regardait tour à tour ses amis pour jouir de leur étonnement. De Presles fit signe que personne ne rompit le silence, et son regard se dirigea sur le visage de l'endormi. Henriette commençait à sortir de la torpeur profonde dans laquelle on l'avait plongée. Elle ouvrait les yeux et les tenait fixes devant elle. Que s'était-il passé? Avait-elle dormi? Où était-elle? Elle ne savait plus. Elle ne reconnaissait rien. Ses jardins, ses fleurs et toutes ses lumières? Elle passait la main sur ses yeux, croyant rêver. La malheureuse se redressa lentement. Son regard se porta avec stupeur sur tout ce qui l'entourait. Puis, d'un mouvement brusque, elle se leva, promenant sur tous ceux qui l'entouraient des yeux où se lisaient l'effarement, la terreur, le trouble inconscient encore. Accablé par l'effet du narcotique, il semble que sa langue soit paralysée en même temps qu'elle ne parvient à se rendre compte ni de ce qu'elle voit, ni de ce qui lui est arrivé. Ses lèvres s'agitent convulsivement, mais les mots ne peuvent sortir de sa bouche, pas une plainte, pas un cri pour témoigner de son effroi. Et dans l'assistance, personne ne songe à l'interpeller. Tout ce monde, naguère encore si turbulent, semble maintenant comme cloué sur place. Florette, plus émue qu'elle ne veut le paraître, se penche vers Roger et lui glisse à l'oreille ces mots. C'est qu'elle a vraiment l'air de sortir d'un profond sommeil. Mais la jeune fille ne peut achever sa phrase. Henriette a poussé une exclamation. Et portant vivement la main à son front,
« Oh, mon Dieu, mon Dieu »
a-t-elle dit. « Est-ce que je suis folle ?» Il y a dans sa voix une intonation si déchirante que Florette saisit le bras de Roger pour attirer son attention sur le visage de la jeune fille où se peint le plus violent désespoir. Et tout bas, « Ce n'est pas tout à fait ce que vous aviez prédit, chevalier. »«
Non, » répondit Roger, « et c'est singulier. »
Il s'était rapproché pour voir de plus près les traits bouleversés de l'inconnu. Henriette eut un mouvement de stupéfaction à la vue de tout ce monde qui l'entourait. Elle se demandait encore par quelle série de circonstances elle se trouvait au milieu de ces femmes, de ces jeunes seigneurs, qui la regardaient immobiles, muets, comme des statues. Alors, sous le coup d'une agitation violente, comme si la raison lui revenait, elle s'élança, allant de l'un à l'autre, interrogeant du regard, cherchant parmi tout ce monde si elle reconnaîtrait quelqu'un. Puis, effrayée du silence qui se faisait autour d'elle, elle voulut parler. La voix lui manquait. Elle voulut s'enfuir, mais elle se vit au milieu d'un cercle d'individus qui barraient le passage. Tout à coup, la malheureuse poussa un cri terrible. En se retournant, elle s'était trouvée face à face avec le marquis de Presles. Alors, la mémoire lui revint, et avec elle toute son énergie. « Monsieur, dit-elle d'une voix brève, c'est par votre ordre que j'ai été enlevée? Et c'est chez vous que l'on m'a conduite ?» Le marquis de Presles, avant de répondre, enveloppa l'assistance d'un regard dans l'intention de préparer son effet. Et s'approchant de son interlocutrice, il lui dit « Calmez-vous, mademoiselle, vous êtes en effet chez moi, comme vous venez de le dire. »«
Chez vous ?» balbutia la jeune fille avec un mouvement de répulsion.
« Vous me faites donc, mademoiselle, l'honneur de me reconnaître? C'est moi qui... » Au son de cette voix qui avait des intonations railleuses, Henriette sentit son cœur bondir. Elle voyait clairement la vérité dans toute son horreur. Et s'animant, « Vous, c'est vous, » s'écria-t-elle, « qui m'avez parlé sur la route de... »«
Oui, mademoiselle, vous vous en souvenez donc ?»
Et l'œil en feu, le marquis continua en essayant de saisir la main d'Henriette. « Oui, oui, c'est moi qui n'ai pu résister au désir de vous revoir et qui ai voulu faire de vous que j'adore, la reine de cette fête. » Henriette comprenait maintenant les violences dont elle avait été la victime. Elle se souvenait des moindres détails de la lutte qu'elle avait eue à soutenir contre les misérables qui l'enlevaient. Ce bâillon qui étouffait ses cris, alors qu'elle voulait répondre à l'appel désespéré de Louise, elle se rappelait tout, jusqu'au moment où elle avait perdu connaissance. Il y avait, à partir de cet instant, une lacune dans sa mémoire. Combien s'était-il écoulé de temps depuis qu'on l'avait séparée de la pauvre aveugle? À cette pensée, Henriette éprouva un serrement de cœur qui la replongea dans la plus horrible perplexité. Elle sentit l'angoisse lui étreindre la gorge, et folle de douleur, elle eût voulu pouvoir s'élancer au dehors, courir par les rues, en appelant sa sœur bien-aimée. Ignorante des crimes qui pouvaient se commettre chaque jour dans ce Paris, livré aux débauchés et aux malfaiteurs, elle ne pouvait supposer qu'elle était irrémédiablement perdue. Elle pensa qu'elle n'aurait qu'à réclamer sa liberté pour qu'aussitôt les portes s'ouvrissent devant elle. Alors, se redressant devant l'homme qui venait de l'outrager en lui parlant de son amour, elle trouva des accents indignés.
Monsieur, fit-elle avec énergie, je veux retourner à l'endroit où l'on m'a prise, où elle m'attend, elle, ma Louise, ma sœur, où elle m'appelle et se désespère. Allons, monsieur, dites que l'on m'y reconduise. Il le faut, entendez-vous? Il le faut, je le veux.
En prononçant ces mots, Henriette avait relevé la tête et les regards pleins de flammes, elle semblait prendre toute cette société à témoin de l'infamie dont elle était victime. Après avoir attendu vainement une réponse, elle se plaça résolument en face du marquis, toute prête à renouveler sa demande, sous une forme plus énergique encore. Elle n'avait plus peur maintenant. Ce n'était plus le sentiment du danger qu'elle courait qui dominait en elle. Henriette ne songeait qu'à l'infortuné dont on l'avait séparée, et qui se trouvait maintenant abandonnée, exposée à tous les périls. Il lui fallait retrouver Louise à tout prix, quoi qu'elle dût faire pour cela. Et s'exaltant à la pensée des dangers inouïs auxquels un misérable avait exposé la pauvre aveugle, elle se tenait la tête haute et le regard menaçant. On ne riait plus dans la noble assistance.
« Ça se complique, » fit Julie.
« Mais, » répondit Florette, « je voudrais bien savoir ce qui va se passer.
Qu'en penses-tu, mon petit chevalier ?»
Roger ne sourcilla pas. Mais comme tout le monde, il regardait fixement le marquis, dont l'embarras ne pouvait se dissimuler. L'attitude si inattendue de la jeune fille l'étonnait. Et, se rappelant en quels termes cavalier il avait prédit la conduite que tiendrait la prétendue novice, il éprouvait un sentiment de honte pour lui-même et comme un insurmontable sentiment de pitié pour la malheureuse dont la douleur semblait si sincère et si poignante. Toutefois, il attendit, se plaçant au dernier rang, comme pour ne plus se trouver sous le regard de la victime à laquelle on faisait subir une si cruelle épreuve.
« Eh bien, monsieur, » reprit Henriette, « vous gardez le silence? Faut-il vous répéter que je veux sortir d'ici? Ou bien dois-je me frayer moi-même un passage ?»
Deprez eut un ricanement cynique.
« Pardon, » fit-il, « vous ne supposez pas que je vous laisserai repartir aussi vite, ma toute belle. Ce serait vraiment trop tôt. Et tout le monde sait ici, cher enfant, qu'on ne s'échappe pas du pavillon du bel air sans avoir payé son tribut au plaisir. »
Il y eut un frémissement parmi tous ces roués et ces filles excitées cependant par l'ivresse. Les invités de ces fêtes cyniques étaient cependant habitués à ces sortes de bravades de la part de leur hôte. Depuis qu'il avait débuté dans la vie de plaisir, ce n'était pas la première fois que le gentilhomme avait donné la preuve des plus étonnantes fantaisies. Mais jusqu'à ce jour, il s'était tenu, pour recruter la partie féminine de ses invités, dans le monde spécial qui fournit les demoiselles d'opéra et les filles galantes. Henriette était donc, pour toutes ces vierges folles, une primeur de haut goût, et chacun des amis du marquis jalousait intérieurement le roué qui avait fait une si belle découverte. De leur côté, les dames se montraient quelque peu dédaigneuses, mais elles ne pouvaient néanmoins dissimuler une impression de dépit qui se lisait clairement dans les regards qu'elles dirigeaient sur la débutante. Aussi, fût-ce avec un sentiment de curiosité mêlé d'un peu de colère, que les belles de nuit de la petite maison de Bel Air attendaient ce qui allait se passer après la déclaration que venait de faire si nettement et si cyniquement l'amphitryon. Deprez était bien décidé à mener jusqu'au bout la détestable aventure dont il avait tiré vanité. Maître absolu chez lui, il ne s'inquiétait guère du scandale que ferait le lendemain la nouvelle de cette orgie lorsqu'elle serait connue de tout le monde. Aussi, après avoir mis de côté toute pudeur, allait-il démasquer ses projets à la malheureuse, qu'il croyait tenir en son pouvoir, lorsque celle-ci, plus maîtresse d'elle-même depuis qu'elle avait parlé, avec la fermeté que l'on sait, reprit d'une voix assurée. « Écoutez, monsieur, je vois, je comprends le piège odieux que vous m'avez tendu, mais vous ne soupçonnez pas à quel point est horrible l'action que vous avez commise. Un enlèvement, un rapt, une tentative de séduction, c'est bien criminel et bien lâche. Mais ce que vous avez fait est mille fois plus épouvantable. Vous m'avez séparé de ma sœur, une pauvre enfant dont je suis l'unique appui. Vous lui avez arraché son guide, son soutien. Et cette infortunée est incapable de faire un pas, de se guider sans moi. Elle est aveugle. »
Aveugle ? S'écria-t-on de toutes parts.
Il y eut alors comme un effet de houle dans le groupe de viveurs et de filles perdues qui entouraient Henriette. Celle-ci comprit-elle qu'un sentiment de compassion se manifestait en sa faveur? Toujours est-il qu'elle ne voulut plus s'arrêter dans la seule voie de salut qui s'ouvrait devant elle. Elle reprit avec une véhémence extrême.
« Oui, messieurs, oui, elle est aveugle, et la voilà seule, toute seule, dans ce Paris où nous venions d'arriver pour la première fois, où elle ne connaît personne dont elle puisse se réclamer. La voilà errante, sans argent, sans ressources, exposée à tous les pièges, la tête affolée par le désespoir. Errante pendant la nuit, entourée de dangers menaçants, au bord d'une rivière, au milieu de carrosses qui se croisent. Et elle est aveugle. Entendez-vous, messieurs, elle est aveugle. »
L'émotion commençait à gagner les plus endurcis parmi ces jeunes écervelés, habitués à rire des douleurs qui ne les frappaient pas en plein cœur. Florette surtout ne put retenir ses larmes. « Pauvre fille » murmura-t-elle en se suspendant au bras du chevalier de Vaudrey. Roger, les poings serrés, paraissait en proie à une agitation extrême. Jamais encore dans l'entourage du marquis de Presles on avait vu un gentilhomme prendre une attitude aussi étrange. Tout le monde, ce monde-là, le considérait comme une façon du philosophe qui se laissait vivre un peu au hasard, sans s'inquiéter par trop de ce qui se passait autour de lui. Le chevalier avait, dans ces conditions, peu d'amis véritables, mais infiniment de ses camarades, parasites pour la plupart, qui ont toujours besoin de faire cortège à une personnalité quelconque. Celle de Roger plaisait, généralement, par le ton un peu raide que savait prendre, à propos, le jeune gentilhomme en toutes choses. Donc, quelques-uns de ses camarades du chevalier avaient déjà remarqué l'air sérieux, soucieux même de celui-ci. Ils en avaient conclu que Roger de Vaudrey ne devait pas trouver absolument de son goût la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Mais aucun d'eux ne soupçonnait ce qui allait se passer. Il n'intervint pas cependant. Florette l'entendit murmurer. « Oh, c'est horrible !» Quant au marquis de Presles, il feignit de s'intéresser au sort de la pauvre aveugle. « Eh bien, dit-il, tranquillisez-vous, mademoiselle, je vais donner des ordres. Nous enverrons un de nos gens. Nous en enverrons 10, s'il le faut. » Il y eut un murmure de soulagement parmi les invités du marquis. On avait cru, comme Henriette du reste, que de Presles venait de se laisser attendrir. Aussi, la déception fut-elle générale lorsqu'on entendit le marquis ajouter. « On cherchera, on trouvera cet enfant, et on l'amènera ici. »« Elle ? » s'écria Henriette. « Dans cette maison, avec moi. C'est-à-dire, deux déshonneurs au lieu d'un, deux victimes au lieu d'une. Et voilà tout ce que vous trouvez à me répondre. Et personne ici n'élève la voix contre vous. Eh bien, je dis, moi, que parmi ces hommes de plaisir et de débauche, il n'y a pas un seul gentilhomme. Le croirait-on ? Un rire général accueillit cette injure sanglante dont une jeune fille flagellait tous ces gentils hommes qui s'avilissaient dans des débauches sans nom. Dans leur ébriété, ils trouvaient même plaisant d'être insultés par une enfant dont le marquis allait maintenant pouvoir les venger sans scrupule. Seul, Roger de Vaudrey sentit son sang de gentilhomme bouillonner dans ses veines. Il avait compris, lui, tout ce qu'il y avait d'ignoble dans la conduite de ces hommes qui se jouaient ainsi de l'honneur d'une femme et faisait gorge chaude de cette douleur si vraie, si poignante. Et de rage, il brisa le verre qu'il tenait à la main. Florette avait vu le mouvement. « Ça se gâte !» dit-elle tout bas à Julie. Pendant ce temps, le marquis avait fait un pas pour se rapprocher de sa victime. Et d'un air de suffisance dédaigneuse, « Vous vous trompez, ma belle » ricana-t-il. « Nous sommes tous ici de vrais et bons gentilshommes !» Henriette, frémissante, releva la tête et jetant un regard plein de feu sur ceux qui riaient de son désespoir, elle reprit d'un ton ferme. « Eh bien, parmi ces gentilshommes, je dis, moi, qu'il n'y a pas un seul homme d'honneur !» Cette fois, Roger n'éteint plus. Écartant vigoureusement tous ceux qui le séparaient de la jeune fille, il vint s'incliner devant celle-ci. Et rouge d'indignation et de colère. « Vous vous trompez encore, mademoiselle » dit-il. Il se fit un silence de glace. Tous les regards se tournèrent vers le chevalier qui entrait si inopinément en scène. Chacun attendait ce qu'il allait faire. Le marquis de Presles n'avait pas bronché. Mais sous son phare, il avait pâli assurément. Ses yeux brillants lançaient des éclairs sur celui qui se déclarait si inopinément le défenseur de la victime désignée. Cependant, il s'efforça de sourire et ses lèvres se plissèrent un peu convulsivement. Autour de lui, un léger murmure bourdonnait sans qu'il pût définir exactement le sens de cette manifestation. Il était évident toutefois que l'attitude du chevalier n'était pas sans paraître extrêmement courageuse dans son imprévu. On le trouvait hardi d'oublier qu'il était l'hôte du marquis de Presles, mais on osait le blâmer ouvertement, de rompre en visière, dans cette circonstance où il s'agissait de sauver l'honneur à une honnête fille. Le moment d'agir vigoureusement était venu. Sans hésiter, Roger tendit la main à Henriette en prononçant ces mots d'une voix lente et calme. « Prenez cette main, mademoiselle, c'est celle d'un gentilhomme. Prenez-la sans crainte et sortons d'ici. » Henriette eut un éclair de joie. Elle se sentait protégée enfin. « Ah, merci, merci, monsieur. s'écria-t-elle en saisissant la main de Roger. Puis, reprise de peur à l'air courroucé du marquis, elle ajouta, en essayant d'entraîner son protecteur improvisé.
« Venez, monsieur, de grâce, venez, venez !»
Mais le marquis était blessé au vif. L'intervention si brusque de Roger lui semblait être un défi, une menace. Et quand il le vit entraîner Henriette, il se jeta au-devant d'eux pour les empêcher de sortir.
« Pardon, chevalier, » dit-il en se contenant encore. « Je suis chez moi, et je m'oppose absolument. Ah, laissez-nous passer, marquis !»«
Allons donc, vous plaisantez, chevalier, je ne permettrai pas... »
Il n'acheva pas. Le cartel sonnait en ce moment.
« Écoutez, » reprit de Presles, « minuit. Personne à pareille heure n'est jamais sorti de cette maison. »«
Nous serons donc les premiers, »
s'écria le chevalier, et faisant un geste pour écarter son adversaire.
« Allons, place, je le veux. »«
Ah, c'en est trop. Savez-vous bien, chevalier, que depuis un instant vous me parlez comme à un laquais ?»«
Un laquais qui agirait comme vous le faites, marquis. Je ne lui parlerai pas, je le bâtonnerai. »
Ceci, monsieur, pourra bien retarder votre sortie.
Peut-être.
Essayez donc de passer.
J'essaierai, monsieur.
Les deux adversaires se regardaient avec les yeux pleins de colère. Et avant que leurs amis, stupéfaits de la tournure qu'avait si rapidement prise l'affaire, aient pu s'interposer, Roger et de Presles avaient déjà l'épée en main. Ils se mirent en garde. Aussitôt, les hommes se jetèrent entre eux pour les séparer. Les dames poussaient des cris, pleuraient, suppliaient. Florette s'était affaissée aux pieds de Roger, tandis que Julie se jetait au-devant du marquis. Il y eut une seconde de terrible angoisse pour cette malheureuse Henriette, qui se voyait de nouveau prisonnière de son implacable persécuteur. La pauvre fille, saisie de terreur, leva les bras au ciel, demandant à Dieu de venir à son secours et d'épargner la vie du généreux défenseur qui allait se battre pour essayer de la sauver.
« Mon Dieu, ayez pitié de nous, protégez-nous » murmura-t-elle en tombant à genoux.
Le marquis de Presles avait fini par se dégager des mains de ceux qui voulaient s'opposer à ce duel. Furieux, il déclarait tout haut à ses amis qu'après une pareille injure, il fallait du sang. Libre enfin, il courut se placer l'épée nue devant l'épée de Roger. Les deux adversaires se regardèrent avec le plus grand sang-froid. Puis ils se saluèrent de l'épée, et le combat commença. L'anxiété était si grande que personne n'osait plus bouger. Henriette se soutenait à peine et tremblait de tous ses membres. Le chevalier et le marquis étant d'égale force, les premières passes demeurèrent sans résultat. Il y eut un temps d'arrêt, mais le combat ne tarda pas à recommencer, plus ardent, plus acharné de part et d'autre. Les deux adversaires se chargeaient avec violence. L'acier flamboyait aux lueurs des lampes suspendues. Le marquis ne faiblissait pas, bien que Roger eût à plusieurs reprises essayé de le faire rompre. Tout à coup, on vit de Presles chanceler. Un cri retentit. L'épée du chevalier de Vaudrey avait traversé de part en part la poitrine du marquis. De Mailly et d'Estrées s'étaient élancés. Ils reçurent leur ami dans leurs bras et le soutinrent. Le marquis de Presles ouvrit péniblement les yeux, comme s'il eût cherché quelqu'un parmi tout ce monde qui l'entourait. Peut-être en ce moment d'agonie foudroyante voulait-il obtenir le pardon d'une faute qu'il allait payer de sa vie. Il voulut parler, mais sa tête retomba sur l'épaule de d'Estrées. Un flot de sang lui arriva aux lèvres. Le marquis de Presles n'était plus. Débarrassé de son adversaire, le chevalier de Vaudrey s'était précipité vers Henriette. Saisissant la jeune fille par la main, il l'obligea à se lever. Et l'entraînant au milieu des assistants terrifiés et des valets stupéfaits, il lui dit simplement « Venez, mademoiselle, vous êtes libre. »